Eh oui, on est toujours là. La Voici J'y suis, à 15h, du lundi au vendredi, sur France Inter.
La Voici J'y suis revient. Bonjour Daniel Mermet et toute l'équipe. Bonjour aux auditeurs, à AMG, ceux qui ont eu des vacances, ceux qui n'ont pas eu de vacances, ceux qui ont eu du bonheur, ceux qui n'en ont pas eu. Bonjour à tout le monde, tendrement bonjour, bonjour, là-bas si j'y suis.
Salut Daniel, et ravi de voir que ton émission est à nouveau à l'antenne cette rentrée septembre. Mais France Inter, maintenant ça devient une habitude, il m'arrache un bras en septembre, on m'arrache un bras. Et oui, Bernard Lenoir, ça fait 33 ans que j'écoutais ce monsieur. Voilà, bah il part, il prend sa retraite. Il a bien raison, après tout, de profiter de la vie et d'arrêter de faire ses émissions. Il devait en avoir un petit peu marre, peut-être. Ben voilà, c'est ma jeunesse qui fout le camp. C'est les premiers feedbacks en 78. J'écoutais ça en cachette. Il m'a tout appris. Il m'a tout appris, ce monsieur. Voilà, ciao Bernard. Bah, comme tu disais si bien, caresse et bise à l'œil. Salut.
Salut à toute l'équipe. Je pense à vous la veille de la reprise de votre émission, demain, lundi 28 ou 29, je ne sais plus. Voilà, c'est tout juste pour faire une petite analyse chroniqueuse. Berne s'en va, le noir en a marre, Delarue revient, mais ça je m'en fous, je regarde pas la télé, je sais pas, j'ai même pas la télé. Et merde, Val est toujours là. Ouf, Mermet aussi, tant mieux. Merci, à bientôt et bonne saison. Je pense que ça va être un peu corsé cette année. Allez, bisous bisous à tous, bientôt, ciao.
Ouais, et ben c'est bientôt la rentrée de là-bas si j'y suis, hein, j'en suis sûr. Parce qu'aujourd'hui, 22 août, moi aussi j'ai repris le boulot. Et puis bon, il y a les événements en Libye, évidemment, ça m'intéresse. Et j'ai pas regardé la télévision pendant un grand moment, là, pendant les vacances. Et bien je branche la télé à 20h05 sur Antenne 2, et pof, c'est la rentrée. Et ouais, BHL était là. Ouais, j'étais content de revoir BHL. Et oui, BHL, c'est une victoire de BHL qui, le premier, a fait accueillir les Libyens, le comité de résistance auprès de M. Sarkozy. Ah, ça m'a fait du bien, ça, de revoir BHL. BHL est vivant. Ah, ah, et l'emparteur, où il est l'emparteur? Bon, allez, bonne rentrée à tous.
Bon, on est le 30 juillet. Daniel, t'es pas là. Merde, t'aurais pu faire une émission là-dessus. Les États-Unis qui sont en cessation de paiement. Tu vois que la crise financière a du bon, ils vont peut-être pouvoir payer les militaires. Non mais c'est pas vrai ça. Mais reviens Daniel, dépêche-toi, allez, bonnes vacances. C'était Chantal de Paris. Vite, 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 rentre.
Hey Daniel, la Ligue 1 a repris, la Ligue 2 a repris. Les conneries à la bourse ont repris, les bêtises de Sarkozy ont repris. Tu reprends quand, quoi? Tu reprends quand? Franchement, tu me manques. Tu me manques. Je t'aime, Daniel. Franchement, je t'aime.
Eh ben, merci pour ces messages. Vous n'avez pas changé. Nous revoilà. Là-bas, si j'y suis aujourd'hui, nous revoilà. Et vous revoilà. On est parti, on n'est pas parti. Parmi ceux ou celles qui sont pas partis, il y a la boîte vocale, le répondeur de là-bas, si j'y suis, qui est resté ouvert tout l'été. On va en avoir la preuve. Parce que tout au cours de l'été, comme on se l'était promis, comme je vous l'avais suggéré, vous avez laissé des messages. Et si bien que, ben, on a ces deux mois, cette parenthèse de deux mois, eh bien, c'est pas une parenthèse, puisque vous avez, au fur et à mesure, des jours et des nuits, laissé des messages, des réactions sur les événements qui se sont produits au cours de ces deux mois. Et puis des choses qui sont pas forcément des événements qui ont l'air très importants, mais qui parfois le sont bien davantage. Hein. C'est pas forcément tout ce que tout le monde regarde qui est le plus important. Les choses importantes arrivent sur des pattes de colombe. Donc voilà, on est tout content, on est gonflé à bloc, on est remonté face à cette année qui nous attend. Oui, quand même face, parce que ça ressemble un peu à une montagne, et à chaque début de saison, comme ça, on a le sentiment tous ensemble d'être en haut d'une piste noire qu'on va essayer de descendre et de négocier. On nous annonce une année très chaude, il va se passer plein de trucs cette année. En tout cas, au cours de cet été, vous avez laissé ces messages. Ça va constituer l'essentiel de cette émission. Vous allez voir, c'est pas triste du tout. Et puis, on s'intéressera, comme à chaque rentrée, aux vacances de Monsieur Chao. Antoine Chao passe des vacances. Et oui, ça nous, chaque année, il nous ramène des échos de ses, de son été, notamment à Uzest, avec les, la bande à Lubat. Alors, on s'intéresse à ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est un peu notre programme. On ira, on va peut-être retrouver le camarade de Mordilla, Gérard Mordilla. On ira faire un tour peut-être du côté de Londres, London Burning. Ça vous dit quelque chose? Voilà, c'est là-bas si j'y suis. Vos messages de l'été, là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour. Eh bien, j'entends que les accidents domestiques font plus de 20 000 tués par an, c'est-à-dire presque 4 fois plus que la route. Alors je me pose la question, à quand les radars dans les chiottes et les salles de bain? Allez, au revoir, bonnes vacances, à plus tard.
Waouh! Bon alors déjà merci, hein. Merci pour avoir diffusé ma petite bouteille à la mer. Et merci à tous les auditeurs qui ont fait exploser mon répondeur, avec des tas de messages de soutien, d'encouragement, de chaleur, j'en suis toute émue. Alors bon, comme le répondeur reste ouvert tout l'été, ben, je pense que je ne vais pas me priver de vous appeler de temps en temps pour vous tenir au courant. Évidemment, vous ne pourrez pas tout passer, mais bon, après tout, Daniel, moi, ça fait des années que je t'écoute quasiment tous les jours, alors tu peux bien m'écouter aussi un peu de temps en temps. Il y a un AMG qui m'a dit « Bienvenue parmi les hommes libres ». Alors j'ai pensé « Oh là là, va falloir que j'apprenne à devenir libre maintenant que j'ai plus de travail ». Et bah, comme je travaillais dans la formation, des formations professionnelles, je me suis dit « Tiens, on pourrait créer des stages de liberté pour les nouveaux chômistes ». Des stages pour être tout de suite opérationnel comme chômiste, quoi, tout de suite heureux, pour pas perdre de temps à pleurer sous la couette en se disant on est devenu inutile et on n'a pas reçu de réponse à nos 812 lettres de candidature. Je sais pas encore trop ce qu'on y ferait dans ces stages, mais bon, on pourrait apprendre ce qu'on voudrait, on n'aurait pas d'horaire, pas d'emploi du temps, on pourrait ne pas signer de feuille de présence, on viendrait surtout pour rigoler, pour partager un bon moment. Voilà, pendant la sieste, j'ai rêvassé là-dessus, puis je me suis dit, la première chose à faire, c'est de trouver un nom qui sonne bien pour ce centre de formation. Alors, je crois que les sigles, ça fait moderne, donc voilà, j'ai choisi le RFAP, comme Rien foutre à le pays, ou Refuge pour foutu à la porte. Réunion en vue de faciliter l'accès à la paresse. Réseau des feignants agissant pour la planète. Refrain qu'on fredonne en allant se promener. Ou bien ruche fleurie des abeilles peinardes. Puis pourquoi pas redevenir frère et aimer son prochain. Ouais, ça sonne pas trop mal. On aurait même notre fanzine à parution irrégulomadaire, la RFAP, revue à feuilleter, allongée sur la plage. Ouais, pas mal. Faudrait peut-être juste que je trouve une signification officielle politiquement correcte pour faire sérieux, quoi, pour que les chômistes y puissent venir se former au RFAP. Retrouve ta fierté sans attendre après Pôle emploi. Non, là je crois qu'il faut que je trouve autre chose.
Voici le message.
J'ai craché dans la gueule de Bruno Goldmich.
À bientôt sur les services d'Orange.
Bonjour, voilà, je vous téléphone parce qu'on est pris en otage par plusieurs émissions à la con pendant l'été là. Et puis vous nous manquez quoi, alors revenez. Hein. Oh, vous nous manquez. Ah, on espère vous revoir à la rentrée. A plus.
La France d'en haut, des couilles en or, la France d'en bas, des nouilles en cœur. Merci Sarkozy.
Tous ceux qui disent que les jeunes ne sont pas concernés, c'est pas vrai. 1 million d'emplois au moins, je crois que ça va être un peu pénalisant pour nous. Ensuite, pour certains, la retraite, ils en ont besoin assez tôt parce qu'ils sont plus en forme, ils sont usés par leur travail. Alors leur reculer de 2 ans. Et en plus, l'histoire nous a appris que si on avait mis la retraite à 60 ans, c'était pas pour rien. Alors pourquoi changer ça? Si on n'apprend pas de nos erreurs, à quoi ça sert d'en faire, franchement?
Vous, monsieur, vous appelez comment?
Je m'appelle n'importe quel citoyen de n'importe quel pays arabe ou de n'importe quelle dictature. Voilà. Je suis une victime de n'importe quelle dictature du monde arabe et du monde. Et je remercie tous les gens qui sont morts et les vivants en Tunisie, qui ont enfin réussi depuis 50 ans d'indépendance à se débarrasser au moins d'un dictateur. Oui, les autres, il faut qu'ils tombent un par un. Même si ça ne plaît pas à X ou à Y, il faut que tous les dictateurs tombent. Oui, chacun son tour ou tous ensemble, ça fait rien.
Moi, je l'ai appris, mais j'ai commencé à avoir un article sur le journal. Tout petit article, 4 ou 5 lignes, disant que du gaz, il y avait peut-être du gaz dans le coin, que des compagnies américaines allaient arriver et exporter du gaz.
Les Américains viennent de confier à l'IPIA une étude d'impact qui doit durer plus de 2 ans sur les conséquences environnementales de l'exploitation des gaz de schiste. Et donc c'est au moment où les États-Unis se rendent compte que c'est peut-être pas une bonne idée que nous nous lançons encore perdus dans cette affaire.
L'explosion était attendue, France 3, elle a bien eu lieu et l'image est spectaculaire.
14 mars 2011.
Il est 11h01 ce matin au Japon, 3h01 en France. Le bâtiment qui enveloppe le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima est soufflé.
Alors ça y est, moi aussi je suis comme n'importe quel japonais, j'ai un masque blanc sur le nez et sur la bouche. Pourquoi donc ? Parce que là, on est dans un périmètre de combien ? 50 km par rapport à la centrale. Et c'est quand même plus prudent de prendre quelques précautions. Puerta del Sol, alors je dis voilà, Puerta del Sol. On en est ce mercredi au 10e jour. Ça fait 10 jours que le mouvement est parti, c'est le mouvement du 15 mai.
Un salut et courage à tous les peuples qui luttent, camarades.
Alors ici, c'est les groupes de travail, grupos de trabajo, en économie, los distintos tipos de bancas. Alors là, voilà, là, ils expliquent les différentes banques. Donc c'est aussi de la pédagogie populaire, quoi, l'éducation populaire.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Bas-Si-J-Suite.
Flight number 2, arriving from New York.
Chili, Japon, Espagne, Tunisie, Israël, quoi de commun entre tous ces pays? Chili, Japon, Espagne, Tunisie, Israël. Eh bien, nous sommes allés, au cours de nos reportages, dans chacun de ces pays, Chili, Japon, Espagne, Tunisie, Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces pays? Eh bien, c'est que dans tous ces pays, à chaque fois, on est venu se préoccuper d'un sujet ou d'un autre, des fois une découverte, des fois une cause perdue, des fois essayer de comprendre, de décrypter ce qui s'y passe à cause d'un conflit. Mais très souvent, et même le plus souvent, on nous a dit « Oh, vous savez, ici, les gens sont dépolitisés, vous savez, il ne faut pas vous faire trop d'illusions. Ils sont résignés, ils ne pensent qu'à consommer. La politique les intéresse vraiment pas, les gens ont autre chose en tête. » Or, le Chili, vous savez ce qui se passe actuellement au Chili, j'espère que vous suivez ce qui se passe au Chili, qui est particulièrement passionnant. Au Japon, nous sommes allés 2 fois au Japon. En l'espace d'une année, il y a eu un retournement complet de l'opinion par rapport au nucléaire. Le Premier ministre est tombé et aujourd'hui, selon les sondages, 85% des Japonais se déclarent contre le nucléaire. En Espagne, on y avait fait un petit tour. J'avais fait un petit tour privé au moment entre les fêtes. J'ai rencontré à Barcelone des amis, des journalistes, des intellos, des artistes. C'était très heureux, c'était très gai. Mais enfin, on nous a bien dit et répété, les Espagnols sont dépolitisés, les Espagnols sont résignés, ils ne pensent qu'à consommer. Et quelques mois plus tard, Vous savez ce qui s'est passé en Espagne, ce qui se passe toujours aujourd'hui en Espagne. La Tunisie, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Nous étions avec Guy en Tunisie. On a rencontré là les dissidents qui se battaient comme des fous. Mais on nous a dit, oui, mais vous savez, là, c'est une poignée, évidemment, de dissidents, de gens qui protestent et qui contestent, mais ils sont très, très peu. Et le reste des Tunisiens sont des gens des politisés, résignés, qui espèrent pouvoir consommer. Et puis Israël, c'est la même chose, évidemment, des politisés, résignés. Et complètement dépolitisés également. Eh bien voilà, tous ces pays se sont retournés, ont manifesté, ont repris leur destin, pour longtemps ou pas, en main, en tout cas, à la surprise générale. Il y a un an, date pour date, jour pour jour, au début de la saison de radio et de télévision, qui avait prévu les événements que nous avons connus au cours de cette saison dernière, les manifestations du mois d'octobre en France, les révolutions arabes, la chute de Ben Ali, de Moubarak, la récente chute de Kadhafi, son départ, ce qui s'est passé à Fukushima et ainsi de suite. On peut multiplier les exemples imprévisibles. Nous avons vécu une année imprévisible, imprévue. J'ai bien l'impression que l'année précédente, c'était la même chose et que l'année d'avant, c'était pareil. Et c'est pour ça qu'on est si heureux de recommencer une année, parce que ce qui va se passer devant nous est évidemment imprévisible et imprévu. Je dis des banalités, mais cette année, on nous dit « ça va chauffer ». Il y a un auditeur qui vient de le dire « ça va être corsé cette année ». Pas si sûr. Et si c'était le contraire, si c'était tout plat, simplement s'intéresser au conflit entre Martine et Ségolène, entre Nicolas et François, entre une fille ou un garçon, pour Carla, et qu'on finisse au printemps prochain avec le choix entre un bonnet blanc et un blanc bonnet, ça peut nous arriver aussi. Quoi qu'il en soit, on est là, et vous aussi, les oreilles toujours près du front, c'est là-bas. Si j'y suis.
London's burning! London's burning! Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On leur suggère aux Anglais de réécouter les Clash? Ciao!
London's burning! London's burning!
All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you're turning on your face and new religion. Everybody's sitting round.
Daniel, c'est Gus. Je voulais juste te souhaiter des très bonnes vacances. Nous espérons tous te recouter à la rentrée, comme d'habitude, et puis pour longtemps. Bisous et ciao.
Bonjour, nous sommes une trentaine d'individus qui bloquons actuellement le centre de rétention de Calais. Ça fait plusieurs semaines que les violences, les harcèlements continuent, les expulsions, c'est tous les jours de plus en plus fort. Un rapport vient d'être remis à Dominique Baudis et j'espère qu'il sera entendu.
Alors moi, je voudrais me réjouir du retour de M. Strauss-Kahn dans la vie politique française. Je suis très très heureux, si même il pouvait être à nouveau candidat. Parce que le plus grand bienfait, ce serait pour nos amis de Fakir. Hein? Comme ça, ils pourraient essayer de refourguer leurs invendus. Hein? Ils avaient fait un spécial DSK. Et ben au moins, il reviendrait d'actualité. Hein? Allez, c'était Jean de Lyon.
Bonjour l'équipe de la Bastille, j'y suis, c'est Raphaël de Bordeaux en fait, je fais partie d'un collectif les Jeudis Bordelais en fait, c'est une asso, on se réunit sur les quais de Bordeaux et on boit l'apéritif et on mange tous ensemble et ça fait passer le lien social. Et un jeudi on s'est retrouvé vers 11h avec une patrouille de CRS qui sont venus nous contrôler et nous demander si on avait des stupéfiants sur nous. Merci Monsieur Sarkozy et vive la liberté, au revoir. Et merci Daniel Marmé.
Daniel, bonjour, c'est Leslie du Gers. Je suis franco-britannique et je vis en France depuis assez longtemps. Je viens d'essayer de donner mon sang et j'ai été refusée puisque je vivais en Angleterre entre 80 et 86, les années de la vache folle. Donc mon sang risque d'être contaminé. Il me semble bien quand même que ça existait aussi en France. Bon, je vois que le syndrome de Tchernobyl existe pour autre chose que le nucléaire. Une toute petite touche d'ironie, je suis végétarienne depuis 40 ans et je n'ai bien sûr pas mangé de la viande pendant ces années-là. Bon, en tout cas, je te remercie vivement pour tes émissions que j'écoute à mon atelier tous les jours et qui me font autant réfléchir. C'est grâce à toi et à France Inter que j'ai appris le français. Alors, à septembre et bonnes vacances à toute ton équipe.
Bonjour, affaire DSK. Aujourd'hui, mardi 5 juillet 2011, dans l'Ouest de France, Michel Urvoy écrit « Un acquittement aux États-Unis pour cause procédurale n'éliminerait pas l'hypothèse du viol, ni même celle, peu glorieuse, d'une relation sexuelle du directeur du FMI avec une femme de ménage de Manhattan. » Peu glorieuse. C'est absolument horrible d'utiliser une telle formule. Dans cet article, M. Urvoy méprise les femmes de ménage. Serions-nous donc une catégorie d'êtres humains inférieurs ? Encore un journaliste bien éduqué dans un monde bourgeois où la soubrette passe à la casserole pour satisfaire les besoins du maître de maison. Les femmes de ménage sont des personnes respectables comme tous les êtres humains. Nous ne sommes pas un élément du mobilier dans le décor qu'on pose là, qu'on déplace, qu'on utilise, qu'on jette. Nous pensons comme tout le monde et avons le droit au respect. C'était une femme de ménage en colère.
Salut Daniel, c'est Aurélien. Bon, on est le mercredi 6 juillet, là. Et écoute, il est temps que tu reviennes de tes vacances et que tu reprennes ton émission en main parce que là, sans toi, on n'a plus de journalisme d'investigation qui aille vraiment en profondeur. Il y a quelques jours, lors de sa remise en liberté, Dominique Strauss-Kahn est allé dans un restaurant manger des pâtes aux truffes et c'est tout ce qu'on sait. Mais quelles pâtes? Des pâtes fraîches? Des pâtes sèches? Quelles truffes? Des truffes blanches, des truffes noires, des truffes du Périgord, des truffes italiennes, on ne sait pas. On ne sait rien de tout ça, alors que ça me semble quand même des informations totalement essentielles pour le pays. Et puis, quelle sauce? De la crème fraîche, de l'huile d'olive, du beurre? On ne sait rien du tout. Du poivre, du sel de Guérande, du sel de Noirmoutier? On ne sait rien de toutes ces informations qui, je le répète, sont absolument essentielles pour les citoyens que nous sommes. Alors, je t'en prie, Daniel, reviens. Et informe-nous, parce que là, c'est pas possible. Bon, j'espère à très bientôt. Hein. Ciao. C'était Aurélien.
Le message que vous avez laissé dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au cours de cet été. Il y a eu évidemment, vous en doutez, beaucoup de messages sur l'affaire DSK. Et pas mal pour s'étonner et manifester un sentiment de... sentiment mitigé sur la presse qui déclare DSK blanchie, DSK innocentée, alors que c'est simplement le procureur qui estime qu'il n'a pas assez d'arguments pour convaincre un jury de 12 personnes. Il estime que la femme de ménage manque de crédibilité, considérant qu'elle a menti au cours des interrogatoires. Mais ça, ça regarde la justice, l'étonnante justice américaine, qui exige qu'une potentielle victime soit une personne avant tout vertueuse pour être prise en considération. Donc il y a quelque chose là qui vous a assez souvent choqué. Mais souvenez-vous, DSK a déjà été jugé par le tribunal des condamnés d'avance. Et oui, le tribunal des condamnés d'avance, c'était le 12 mai 2011, c'était dans la base si j'y suis, et voilà ce que disait le procureur Gérard Mordilla.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les jurés du tribunal des condamnés d'avance, nous avons aujourd'hui à juger Dominique Strauss-Kahn. Les charges nombreuses qui pèsent sur l'accusé sont trop nombreuses pour être rappelées. Privatisation, prévarication, destruction, défiscalisation, héron, petit fonds de pension. Eh bien, malgré tout cela, Monsieur le Président nous l'a rappelé en préalable, l'économiste Daniel Cohen classe Monsieur DSK, je cite, clairement à gauche. Monsieur DSK lui-même se dit socialiste et, dans le paysage politique français, les socialistes sont classés à gauche. Posons quelques questions. Monsieur DSK dit-il qu'il est impératif de procéder à une hausse des salaires ? Non. Pourtant, Monsieur DSK est un homme de gauche. Dit-il qu'il est impératif de taxer les revenus du capital ? Non. Pourtant, Monsieur DSK est un homme de gauche. Dit-il, à l'imitation de Roosevelt ou de Nixon, qu'on peut taxer les plus hauts revenus à hauteur de 90%? Non. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. Dit-il qu'il est nécessaire et urgent de supprimer les parachutes dorés et les stock options? Non. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. Dit-il qu'il faut abroger la loi sur les retraites et rétablir l'âge légal à 60 ans? Non. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. Dit-il que l'éducation, la santé publique, la justice, les transports, la poste n'ont pas à être ouverts à la concurrence ? Non. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. Dit-il que le secteur bancaire doit être placé sous le contrôle des citoyens ? Non. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. Dit-il que ceux qui ont conduit la France dans la situation où elle est aujourd'hui auront à répondre de leurs actes devant les tribunaux ? Non. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. Dit-il que tous les travailleurs sans papier seront régularisés, que les résidents étrangers pourront participer aux élections locales, que les cantines scolaires de l'éducation nationale seront gratuites pour les élèves, que les transports seront gratuits pour les chômeurs, que les logements vides seront réquisitionnés pour loger les sans-abri et les mal-logés, que les loyers seront encadrés, que le travail gratuit des femmes trouvera une rémunération, que l'égalité des salaires hommes-femmes sera obligatoire, que la durée légale du temps de travail sera ramenée à 30 heures afin que chacun puisse participer à la richesse de la nation, qu'aucun homme ne pourra gagner en une heure ce qu'un autre gagne en une vie ? Non. Il ne le dit pas. Pourtant, M. DSK est un homme de gauche. La question est alors de savoir quel homme est-il et de quelle gauche. M. DSK est un homme de gauche postmoderne. C'est-à-dire que c'est un homme de gauche de droite. Dès lors, pourquoi M. DSK se revendique-t-il comme socialiste ? Et qui plus est, comme dirigeant socialiste ? Vous l'avez compris, c'est une habileté, mais elle n'abusera pas ce tribunal. Cette revendication n'est là que pour ouvrir la voie à des circonstances atténuantes. Mais pourquoi être un dirigeant socialiste ouvrirait la voie à des circonstances atténuantes? Eh bien, parce que le dirigeant socialiste ne peut s'empêcher de trahir ses convictions, ses promesses, ses engagements, comme dans la fable du scorpion qui ne peut s'empêcher de piquer la grenouille qui lui sauve la vie, parce que le scorpion est un scorpion, comme le dirigeant socialiste est un dirigeant socialiste. De l'entrée en guerre de 14, en passant par la guerre d'Espagne, la guerre d'Algérie, jusqu'à l'adoption du traité de Lisbonne, massivement rejeté par les citoyens, ou la réforme constitutionnelle, les dirigeants socialistes ont toujours trahi leurs idéaux et leurs engagements. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, comme Edgar Faure ne pouvait pas s'empêcher d'être ministre. Alors oui, en tant que dirigeant socialiste, M. DSK a déjà et sera demain un grand traître qui ne fera évidemment rien pour les salariés, rien pour les chômeurs, rien pour les travailleurs pauvres, les intermittents, les précaires, rien pour les services publics, rien pour sortir du régime post-démocratique qui est désormais celui de la France, et au contraire, tout pour la finance, la banque, la bourse, le commerce, les grandes fortunes, le privé, le confessionnel, au nom d'une crise qui permet de mettre la démocratie dans sa poche et son mouchoir par-dessus. Alors, bien sûr, sans commune mesure avec les traîtres à la petite semaine comme un vulgaire Besson ou le lamentable Kouchner, DSK est et sera le grand traître de la gauche, si grand qu'un jour son nom brillera au firmament de la traîtrise, à côté de Judas ou de Iago, personnage indispensable à l'accomplissement de l'histoire. C'est ce traître, je n'ose dire ce social traître, cet homme de gauche, de droite, que je vous demande de condamner à une peine exemplaire. À cet instant, je mesure la gravité de la peine que je requiers contre lui, la peine la plus juste, mais aussi la plus terrible. Je réclame que M. DSK soit condamné à découvrir le réel. Oui, mesdames, messieurs, oui, monsieur le président, je réclame contre lui cette peine maximum. Vous condamnerez monsieur DSK à vivre avec sa femme et leurs 6 enfants à Sarcelles, dans un F2, pour un loyer mensuel de 600 euros, à occuper un emploi flexible de cariste à Fontenay-aux-Roses pour un salaire de 1200 euros brut par mois, à utiliser les transports en commun pour ses déplacements, à se nourrir chez Lidl ou au Resto du Cœur, à s'habiller au Secours Populaire et à vivre la vie de millions de travailleurs et de travailleuses pour qui FMI signifie fin de mois impossible. Oui, monsieur le président, oui, mesdames et messieurs les jurés, vous condamnerez DSK au réel, rien qu'au réel, mais tout le réel.
Merci.
Bonjour, voilà, je vous téléphone parce qu'on est pris en otage par plusieurs émissions à la con pendant l'été, là. Et puis, vous nous manquez, quoi. Alors, revenez. Hein. Oh, vous nous manquez. Ah, on espère vous revoir à la rentrée. À plus.
C'est vrai. Mais oui, on l'a déjà passé, celui-là, mais on l'aime. Ça nous fait du bien pour cette rentrée, les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse jusqu'au cours de l'été, puis ce petit retour sur la condamnation. C'était avant, vous avez compris, que le tribunal des condamnés d'avance avait condamné d'avance DSK avant que le scandale n'éclate. On continue donc avec les messages que vous nous avez laissés au cours de l'été.
Alors voilà, je voulais dire, je viens d'entendre là sur le journal de France Inter de 13h que les immigrés qui vont se faire naturaliser, ils devraient avoir un niveau de français de seconde. Bon, je suis bien content, ouais, je sais même pas si je l'ai moi, mais connaissant tout le français approximatif de notre cher président de la République, ses erreurs de français, ses erreurs de syntaxe et ses erreurs d'accord de participe, je suppose que pour être président de la République, il faut au moins être agrégé. je suppose, parce que pour être juste naturalisé, il faut un niveau de seconde. Pour être président de la République, ça serait bien que je sois un tout petit peu au-dessus. Voilà. En dehors de ça, je fais une grosse bise à tous mes potes et ciao, ciao, ciao.
Salut, là-bas si j'y suis, c'est Franck à Grenoble. J'aimerais entendre une bien bonne aux infos sur France Inter. La date, peut-être, ça peut servir, je crois qu'on est le 11 juillet, quelque chose comme ça. L'Union européenne, l'Europe, donc, s'est exprimée et s'engage à soutenir les banques qui ne réussiraient pas le stress test. Alors, si j'ai bien compris, le stress test, c'est une espèce de campagne de dépistage des malfonctions qui est en train de se produire dans le monde bancaire au niveau européen. Et alors, donc, on sait déjà que s'il y en a qui sont pas bons au stress test, ben, l'Europe les soutiendra de toute façon. J'ai trouvé ça pas mal, j'ai trouvé assez fort, surtout que la journaliste de France Inter t'a glissé ça comme une anguille au milieu d'un paquet d'escargots, enfin un truc, voilà, c'est pas passé inaperçu quand même. Gros bisous à tous, bon été, alléluia quoi tout ça, hein. Salut.
Bonjour, là-bas si j'y suis. J'entends à France Inter qu'Eva Joly ne voudrait plus de défilé militaire au 14 juillet, mais un rassemblement des citoyens. Après tout, le 14 juillet, c'est l'affaire du peuple contre un gouvernement punitif. Oh, mais c'est qu'elle commence à me plaire, Eva Joly. Ça prend bien une femme qui a aussi une vision extérieure pour s'apercevoir du ridicule de ce défilé. J'espère qu'elle nous réserve d'autres belles surprises comme celle-là. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Puisque la proposition de défilé des forces vives fait polémique, il faut se rappeler que Théodore Monod avait répondu à François Mitterrand « Je tiens à m'excuser de ne pouvoir assister à la réception du 14 juillet à laquelle vous avez bien voulu m'inviter. Je continue à nourrir le vivant espoir que le jour viendra où la fête nationale ne sera plus seulement militaire et verra défiler aussi les bûcherons, les cheminots, les mineurs, les instituteurs, les infirmiers et plus uniquement les hommes de guerre. » Dans l'attente de ces temps nouveaux, où de plus le refrain de notre rythme national ne sera plus sanguinaire et raciste, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Théodore Monod, il faut se rappeler, était quand même professeur honoraire au Musée national d'histoire naturelle, membre de l'Académie des sciences. C'était un pacifiste, philosophe, humaniste, et était certainement un très grand naturaliste aussi. Donc, nombreux, très nombreux, n'ont pas une culture des valeurs des humanistes, des Français qui méritent d'être écoutés. Voilà, Jean-François Bétus, La Paluche sur Verdon.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma femme, ma soeur, ma fille voir la revue du 14 juillet. Puis après avoir cassé la côte, en cœur nous nous sommes mis en route. Les deux femmes avaient pris le devant, moi je donnais le bras à belle maman. Chacun devait en porter, pas pouvoir vous loter. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait deux jambonneaux. Ma belle-mère comme fricot avait une tête de veau. Ma fille son chocolat et ma sœur deux œufs sur le plat. Gais et content, nous marchions triomphants. En allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de Longchamp, on foule la pelouse, nous commençons par nous installer, puis je débouche les 12 litres à 12, et on se met à saucissonner. Tout à coup on crie vive la France, crédit c'est la revue qui commence. Je grimpe sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma sœur qu'aime les lanciers acclame ses fiers pompiers. Ma tendre épouse bat des mains quand défile les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en luttant les spahis. Moi je faisais qu'admirer le brave général Boulanger. Gais et content, nous allions triomphant, en revenant de Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, nous venions d'acclamer, voir et complimenter l'armée française.
J'entends à l'instant, de la bouche de notre président, que les militaires qui viennent de recevoir les honneurs sont morts pour notre liberté. sérieusement, les Afghans sont-ils sur le point d'envahir la France ?
Les oreilles dressées, les oreilles jamais loin du front, c'est les auditeurs de là-bas, si j'y suis, et de France Inter en général. Et voilà les messages que vous nous avez laissés au cours de l'été, comme promis et fidèle. Vous vous revoilà et nous revoilà pour cette nouvelle saison.
Bonjour, je m'appelle Alain Blasquez, je suis sur Lyon. Je suis abasourdi là. Il y a un décret qui est sorti, le décret numéro 2011-795 du 30 juin 2011, relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public. Nous sommes en France, c'est sur le site de Légifrance. Tout le monde peut le voir, hein, ça a été promulgué en catimini, comme d'habitude. Je me faisais un peu de soucis pour mes concitoyens. S'il y a des débordements, je pense qu'ils utiliseront la force. Donc voilà, je cherche par tous les moyens de faire parvenir cette information, puisqu'on n'en parle pas du tout. Voilà. Au revoir.
Salut Daniel, salut tout le monde. Bon, bah, tu avais demandé qu'on te donne des petites nouvelles pendant nos vacances. Moi, je suis en Turquie, devant le lac du Tortoum, et puis je voulais dire un petit mot d'une guérilla marxiste qui a l'air d'être bien radicalisée cet été en Turquie. C'est celle des Kurdes, évidemment, dans l'Est. Attentat à Diyarbakir il y a 5 jours. Un jeune homme criblé de 96 balles par la gendarme il y a 3 jours, avec un enterrement aux allures d'intifada. Donc je ne sais pas si c'est le fait que des milliers de Kurdes arrivent dans le sud de la Turquie aujourd'hui depuis la Syrie, mais il semble que ici le face-à-face revienne très fort. Par ailleurs, c'est une région où tu devrais vraiment venir traîner tes guêtres. On rencontre des gens tout à fait incroyables. Un vétéran de la guerre d'Irak, une expédition de Texans qui cherche l'Arche de Noé sur le mont Ararat. Enfin, des trucs tout à fait hallucinants. Des alpinistes iraniens, des autostoppeurs polonais. Enfin, c'est super riche. Voilà. Mais c'est super chaud et les gens sont tristes parce que ils ont l'impression que on ne s'intéresse pas à eux, qu'on vient que sur leur plage, et puis que ce qui peut se passer ici, ou ce qui pourrait bien advenir ici, sera totalement passé sous silence. À suivre, mais eux espèrent fortement que la prochaine révolution, alors que je ne sais pas quel nom de faire, parce qu'aussi ce sera peut-être plutôt un charbon, parce que c'est plutôt la montagne, eh ben, ce sera chez eux, voilà, et qu'ils auront un pays. Bonne fin de vacances à tous, salut.
C'est dommage, t'es pas là cet été pendant que toutes les bourses de la planète se cassent la gueule. On aurait pu rigoler, c'est en direct. Hein, le 8 août, là, on est déjà bien avancé. Alors, je te fais une prédiction. C'est comme ça que va commencer l'apocalypse l'année prochaine. Tu sais, on a l'apocalypse, un rendez-vous en fin 2012. Alors, l'apocalypse, ça va durer assez longtemps, c'est une guerre mondiale généralisée. Et ça va commencer justement parce que la Chine se rend compte que les emprunts américains, les obligations américaines, qu'elle a par 8 milliards de milliards, ne valent plus rien. Voilà, donc ça, c'est déjà le début, c'est les prémices. Là. Voilà. Allez, salut, un bon sujet d'émission pour la rentrée, l'apocalypse. Et salut.
Oui, bonjour. Incroyable ce matin, un petit rayon de soleil, il fait beau. Sur quoi sont la dette? Ça y est, j'ai vu la dette, j'ai vu, elle est là, sous mes yeux, j'en reviens pas, elle est là. Audi, BMW, Mercedes, et tout ce qui quanti, voiture à 80 000 euros, il y en a partout, il y en a plein les rues, elle est là la dette, ça y est, j'ai vu, des milliards de milliards, ils sont tous là. Ah bah ça fait du bien, on sait au moins pourquoi on paye. Allez, au revoir.
Aujourd'hui, mardi 17 août, j'ai appris ce matin qu'Alain Leprestre s'était suicidé. Je savais qu'il avait un cancer depuis des années, je suis pas sûre que ce soit à cause de ça, parce qu'il avait l'air à passer ça pas trop mal, bon ben ça fait un coup quoi. Voilà, j'espère que vous allez nous passer une chanson de lui. Au revoir, Marie-Paul de Villejuif.
Bonjour, alors je voudrais dire que j'ai lu le journal ce matin et il y a un petit malheur là, c'est que on a perdu Alain Leprest qui était un très grand chanteur. On avait fait la fermeture l'année dernière du théâtre de Ménilmontant pour les vacances, il était venu participer. C'était quelqu'un de très bien, qui souffrait beaucoup parce qu'il avait un cancer des poumons. Et là, il est mort à Entraigues, le pays de Ferrat. Alors, je voulais qu'on pense bien à lui parce que c'était quelqu'un de bien, beaucoup de talent. Au revoir, merci.
Dans le café de Ravitch, la barmaid écoute au repas
Sur le papier de mon sandwich, j'écris des chansons à la main. Elle met la table, elle débarrasse, elle remplit les verres, je les vide. Quand ils sont vides, elle les remplace. Au l'air du large, c'est toujours humide, y a rien qui se passe. Les vagues et les jours, c'est pareil. On dort en bronze, on baisse, on dort. Et l'orage, on se réveille. Sur un matelas de poissons morts le soir, on déloue ses godasses, on secoue le sable et le varec. Le lendemain, on les relâche. On serait mieux de dormir avec. Y a rien qui se passe. Au Mavitch ou Saint-Malo, la mer vient, retard et revient. Elle s'échine à faire son boulot, que pourtant, ça n'amène à rien, la mer. C'est comme tout, on s'en lasse. Quand elle aura léché la croûte, on attendra la marée basse. Bien vrai, dans la marée haute, y'a rien qui se passe. Au Mavitch, pour le dimanche, la môme rebarre un sandwich. Son petit cœur rebat entre deux tranches. Pour le grand brin qui mord ses miches, je peux pas la trouver dégueulasse, moi. C'est pour 1000 ans que je l'aime, lui. Il vide ses couilles et il se casse. Je suis tranquille jusqu'à la quinzaine. Y'a rien qui se passe. C'est du beau temps, c'est des averses, des nabustratus de passage. Comme ces voyageurs de commerce qui cloquent, s'emballent dans son corsage. Marie Boussin, un cul de glace, une paille, un verre de vin rose, moi. S'il y a des trucs qui m'agacent, c'est de dire 20 fois la même chose, y'a rien qui se passe. Vas-y qu'elle remet un sandwich, et le billard rue la queue. Les riches essaient de jouer aux riches, mais les fauchés jouent mieux que le vent. Sur la terrasse, les trois dés tombés de ma main. Il me manque toujours un as pour claquer un 421. Y'a rien qui se passe. Aujourd'hui, j'ai fait ma valise et j'ai replié mon courage. J'ai une plaie sur la chemise et un accroc sur le visage. Au Mavitch, prends une trace, s'en vont et reviennent les flots. Une éponge de mer efface, un grand ciel vert, comme un tableau, y'a rien qui se passe.
Uzest musical
34e
Il faut avoir le courage et l'opiniâtreté de présenter au public ce qu'il ne sait pas qu'il désire. C'est de Jean Vilar, je la répète cette phrase. Il faut avoir le courage et l'opiniâtreté de présenter au public ce qu'il ne sait pas qu'il désire. Ça devrait être la devise de la base où j'y suis. Ça devrait être notre devise à tout, présenter au public ce qu'il ne sait pas qu'il désire. En tous les cas, c'est le principe et l'idée générale de la fête annuelle d'Uzest. C'était la 34e cette année. Manifestivité poélytique d'Occitanie océanique. Vous entendez le langage et la voix de Bernard Luba à travers ces mots-là qui sont de lui. Et non loin de là, il y a notre Antoine Chao, à nous, qui est d'Uzest et qui travaille avec cette bande d'allumés et d'illuminés chaque année. Et cette année, il y avait Philippe Cobert, qu'on ne présente pas, c'est très pratique ces gens-là, le comédien Philippe Cobert, qui faisait un hommage à André Benedetto. Alors lui, il est moins connu et plus oublié. Il est mort il y a 2 ans et c'était un metteur en scène, c'était un homme de théâtre tout à fait, qui illustre tout à fait cette phrase de Jean Vilar. Le voilà, revécu, revisité à travers l'art de Philippe Cobert à Uzest.
Salut les bitiques, salut les casseurs, salut Saint-Vladimir Mayakovski, poète. Salut les bites, salut les amoureux, salut les putains et les gouines, salut les morpions, salut les pédés, les clandestins, les joueurs de guitare, les mystificateurs, anarchie. Je vous salue, les dévoyés, les cochons des piqûres, salut les bagarreurs, les lézards, salut les casseurs, les démolisseurs, les balayeurs, les nettoyeurs, les assassins de vérités éternelles, anarchie. Salut les emmerdeurs, clochards systématiques, les mauvaises consciences exposées au soleil, les insupportables évidences, les termites de la morale, les questionneurs aux belles dents, les dévoreurs de dogmes, les requins et les piranhas. Salut, salut les assoiffés de sang.
Michel Ducom, GFEN, groupe français d'éducation nouvelle. Quel est votre bilan de cette 34e édition de l'Estegada de la Sarthe?
Nous étions dans un optimisme qui ne va pas du tout avec l'état de la planète. Mais comme nous gardons un œil déterminé sur l'état de la planète, nous pouvons dire que les choses vont pas tarder à s'améliorer. Parce qu'on a vu des gens décidés à afficher le bonheur comme une idée neuve, comme ça, partout, entre eux. Entre eux et les autres,
on peut partager.
On va préparer une rentrée où l'éducation nationale est sinistrée. Alors, on va faire une rentrée, non pas de résistants, mais d'offensifs. Parce que nous sommes offensés par la situation qui est faite à l'éducation. Nous, nous disons tous capables, on voit bien que les mômes sont tous capables, que même les enseignants peuvent l'être. Et voilà, et on nous raconte que c'est pas vrai. Alors, il ne faut pas exagérer, ça commence à suffire. Donc, on y va. On retrousse les manches et on fait la rentrée.
Avis à la population!
34e!
Chantier de recherche.
Formez le bataillon!
34e STA de la Sarthe!
Non, à l'STA, le bilan du bilan, c'est que l'an prochain, venez nombreux, préparez-vous, on fera nettement pire.
Uzès!
Salut à toi!
Musical!
Les offensés sont offensifs. Merci à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian. À la réalisation, Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer. Oui, c'est Bertrand Chaumeton maintenant qui prend la réalisation de là-bas si j'y suis avec Franck. Notre Coy Nguyen vit sa vie sur Inter. Vous le retrouverez sur France Inter. Ainsi que notre chère Agnès Lebotte qui elle aussi vole de ses propres ailes. Désormais, notre assistante c'est Marina Touyez. Et au répondeur, c'est Grégory Salomonovitch qui devient le chef suprême du répondeur, dont je rappelle le numéro, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Voilà, c'était la rentrée de là-bas, si j'y suis.